Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Je commence une toute nouvelle année 2025 en interviewant un professionnel du secteur du patrimoine culturel, mais dans une branche moins connue que celle vue habituellement. Il s'agit en effet d'un chef de projet pays d'art et d'histoire. Nous verrons ensemble son parcours universitaire et professionnel, ses tâches quotidiennes et son activité de rédacteur dans un magazine à côté de son travail. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Donc, Monsieur Antoine Lavastre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service Pays d'art et d'histoire de Rion, Limagne et Volcans. Vous avez suivi une licence d'histoire à l'université de Clermont-Ferrand avant de rentrer à l'école du Louvre de 2017 à 2023. La dernière année, vous avez fait une classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine. Est-ce que j'ai tout bon ?
Oui, tout est bon.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus votre formation et ce que vous avez appris lors de vos études ?
Oui, alors moi j'ai un bac scientifique, même sciences de l'ingénieur pour être plus précis, donc je ne me destinais pas vraiment à des études de sciences humaines, mais au lycée, en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà des sciences, ce qui m'intéressait quand même plus, c'était l'histoire. Du coup, à la fin de mon lycée, j'ai fait le grand saut, je suis parti en faculté d'histoire à Clermont-Ferrand, parce que je viens à côté de Saint-Étienne, donc la fac de référence pour moi, c'était soit Lyon, soit Saint-Étienne, soit Clermont-Ferrand, soit Saint-Étienne, j'ai choisi Clermont-Ferrand. Et à Clermont, j'ai suivi des cours d'histoire, 2 ans en licence d'histoire. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce au parcours qu'on a en première année, en deuxième année, un petit peu d'ouverture, que l'histoire de l'art m'intéressait bien plus que l'histoire en tant que telle. Même si j'aime beaucoup l'histoire, hein, et les deux surtout sont très liés, on ne peut pas faire une matière sans l'autre. Mais l'histoire de l'art m'intéressait quand même plus parce qu'il y avait un aspect concret qui est l'étude des œuvres d'art qu'on a un petit peu moins dans l'histoire, puisque dans l'histoire, on se concentre sur des textes, sur des documents, sur des témoignages, et on a moins ce côté visuel qui me parle plus avec l'histoire de l'art. Donc dans ce cadre-là, j'ai un petit peu réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc c'était soit une réorientation en faculté d'histoire de l'art, mais qui ne me tentait pas trop, soit essayer de passer le concours de l'école du Louvre. Donc, dans ce cadre-là, j'ai fait le choix de passer le concours. Du coup, j'étais en deuxième année de licence d'histoire. J'ai eu le concours du premier coup, donc un petit peu par chance, je n'avais pas énormément révisé. Mais bon, je l'ai eu, donc tant mieux. Et après, je suis parti à l'école du Louvre. À l'école du Louvre, j'y suis resté, on va dire, j'ai fait ma formation en 5 ans. Donc, j'ai fait licence et master. Donc, master 1, master 2. Et après, comme vous l'avez dit, une année de classe préparatoire au concours de conservateur. À l'école du Louvre, l'enseignement fonctionne de la façon suivante. Donc, dans licence, on fait de l'histoire de l'art général. Donc, on commence, on fait l'Antiquité en première année, puis on fait la Renaissance et le Moyen-Âge en deuxième année, et on fait la période moderne et contemporaine en troisième année. En sachant qu'on applique ces critères chronologiques à l'ensemble du monde, c'est-à-dire on fait aussi bien l'Orient que l'Europe, que l'Afrique, que l'Asie, etc. Donc ça occupe bien, et en plus de ça, on choisit une spécialité. Moi, en l'occurrence, j'étais spécialisé en école de peinture étrangère, c'est-à-dire la peinture à la période moderne en Europe, hors France, donc du 15e au 18e siècle. En sachant, je me suis notamment spécialisé autour de Léonard de Vinci, même si mon attrait personnel est plutôt autour de la peinture française au 17e siècle. Mais dans le cadre de mes études, je suis étudié un petit peu autre chose. Donc ça m'a offert une formation qui était, on va dire, très généraliste, mais très intéressante parce que ça permet de tout connaître. Aujourd'hui, peu importe le domaine d'études dans lequel j'ai à travailler, je sais à peu près de quoi il en retourne, même si bien sûr c'est un domaine où je maîtrise mieux que d'autres. Après avoir fait du coup ma licence, j'ai poursuivi à l'école du Louvre en M1, du coup en Master 1, qui est un master général muséologie qui destine à tous les métiers liés au musée ou à l'histoire de l'art de façon générale. Et là, du coup, j'ai fait un premier mémoire sur l'œuvre de Limoges médiévale par le prisme des enchères. Donc, c'est très précis. Tout ça, c'est du coup la production limousine d'émail entre le XIIe et le XIIIe siècle. Mais moi, mon idée, ce n'était pas du tout de l'étudier d'un point de vue artistique, mais d'étudier sa réception au XIXe siècle sur le marché de l'art parisien. parce que j'étais passionné de marché de l'art, et je le suis toujours aujourd'hui. Et du coup, un peu ce regard sur le collectionnisme m'intéressait beaucoup. Donc j'ai fait ça en sachant qu'à l'école du Louvre, la spécificité, c'est que nos sujets de mémoire sont entre guillemets imposés. En gros, on a une liste délimitée et il faut choisir là-dedans. Donc on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on veut. C'est pour ça que je me suis retrouvé à travailler aussi là-dessus. Si j'avais choisi, j'aurais choisi plus travailler sur la peinture. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas de sujet sur la peinture en histoire du Moyen-Âge que j'avais choisi comme sujet, comme groupe de recherche. Donc ça s'est bien passé, mon mémoire, parce que j'ai eu 17 sur 20, donc on peut dire que ça s'est globalement bien passé. Et après, en M2, là, il faut se spécialiser. Donc on a le choix entre plusieurs spécialités, entre guillemets. Donc il y a des spécialités plus professionnalisantes, des parcours plus professionnalisants. Il y a marché de l'art, notamment. Il y a métier de la documentation, il y a régie des œuvres, etc. Ou des parcours destinés à, si on veut continuer dans la recherche ou si on veut s'orienter vers le travail de personnel scientifique dans les institutions culturelles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un master 2 histoire de l'art appliqué aux collections. Donc, pour gérer des collections, comme son nom l'indique. Où là, j'ai poursuivi un peu dans mon domaine d'études, puisque après avoir étudié l'œuvre de Limoges aux enchères, j'ai fait les peintures des primitifs français notamment, mais européens de façon plus globale, donc la peinture médiévale, aux enchères, au tournant du XXe siècle. Donc on restait dans un peu le même domaine qui m'avait intéressé, mais je recentrais sur la peinture, qui est quand même plus mon domaine d'expertise. Donc là, ça m'a vraiment appris à travailler, appris à rechercher, fait rencontrer aussi des professionnels des musées, ça m'a ouvert la porte de colloques, de rencontres, etc. J'ai pu présenter mon travail, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, travailler mon mémoire, mais je n'ai pas eu la volonté de poursuivre entièrement là-dedans. Donc du coup, parce que moi, mon objectif quand même initial, quand je suis rentré à l'école du Louvre, c'était faire conservateur de musée. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai enchaîné logiquement avec la classe réparatoire au cours de conservateur de musée, que j'ai suivi pendant un an. Mais en fait, au cours de cette année, j'ai eu un peu une révélation. Donc là, si vous suivez bien un peu mon parcours, c'était ma 8e année d'études. Et j'en pouvais plus, à vrai dire. Ça devenait un petit peu long. Ce qui fait qu'en fait, au cours de l'année, j'ai un peu décroché. Et je me suis dit, en fait, il faut que je bosse, là, j'en peux plus. Quitte à repasser, le cours de conservateur étant très difficile, il faut, c'est quasiment impossible de l'avoir du premier coup. En tout cas, ça arrive, mais c'est très, très rare. Et je savais que si je l'aurais pas du premier coup. Donc, ça m'a un peu, j'étais un peu dans un autre, dans une autre attitude. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on fait cette année, on bosse à fond, on voit ce que ça donne au concours, en n'y croyant pas trop. Et après, chercher du taf. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours. Je ne l'ai pas eu sans aucune surprise. Et après, je me suis mis à chercher du travail. Voilà, pour un peu résumer mes études.
Justement, lors de votre travail sur vos sujets de mémoire, comment est-ce que vous procédez pour travailler ?
C'était un travail de longue haleine, puisque travailler sur les ventes aux enchères nécessite d'avoir des archives. Donc, décide d'avoir des catalogues de ventes anciens et d'avoir aussi beaucoup de matière. Parce que c'était un mémoire qui était autant l'histoire de l'art que l'histoire de l'économie. N'étant pas spécialiste en histoire d'économie, c'était un peu compliqué pour moi, donc j'ai dû un petit peu me former sur le tas. Mais ça a été beaucoup, beaucoup de travail, de recherche. Heureusement, les catalogues de ventes, il y en a beaucoup, ils sont numérisés. Donc là, j'ai pu travailler avec beaucoup de catalogues de ventes numérisés. Et après, j'ai pu aussi travailler avec des choses qu'il y avait à l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris, où il y avait des choses qui avaient été sous microfilm ou conservées de format papier. En premier, en M1, c'était un peu plus simple, puisque j'étudiais une quinzaine de ventes à peu près. Et en deuxième année, j'ai étudié 2000 ventes. Donc, le gap a été un petit peu fort, et parce que j'ai fait fois 1000 à peu près. Du coup, ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de traitement de données, beaucoup plus d'analyse. Ça a été, pour moi, mon année de M2, j'ai passé 3 mois à ne faire uniquement que consulter des catalogues de vente et noter s'il y avait oui ou non des primitifs dans les catalogues de vente. Et après, ça a été du travail de bibliographie, beaucoup de lecture d'ouvrages, beaucoup de rencontres avec des spécialistes qui avaient travaillé sur le sujet, en sachant que c'était un sujet un peu de niche. Donc, il n'y avait pas, on se comptait sur les doigts d'une main, grosso modo, les gens qui travaillaient sur les ventes aux enchères au 19e siècle. Puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode de travailler sur les ventes aux enchères, mais c'est surtout les ventes aux enchères pendant l'occupation. pour avec l'expoliation des nazis, etc. Mais tout ce qui est marché de l'art avant l'occupation n'intéresse à peu près personne. Donc c'était un sujet aussi qui était très intéressant dans ce sens, puisque tout ce que je découvrais était vraiment une découverte. C'était pas dans le sens où c'était quelque chose qui avait été rabâché 50 fois, que je redécouvrais pas l'eau tiède à chaque fois. Je découvrais vraiment des choses qui n'avaient jamais été étudiées auparavant. Et en plus, ça avait un intérêt pour les musées avec lesquels je travaillais, puisque en première année, j'ai travaillé, ma directrice de recherche était au musée de Cluny, donc musée national du Moyen-Âge, et la personne avec qui je travaillais plus était au musée du Louvre. Et en deuxième année, j'ai travaillé avec des conservatrices du musée du Louvre uniquement. Et ça m'a permis aussi de redécouvrir des historiques d'œuvres à la fois du musée de Cluny et du musée du Louvre, qui n'avaient jamais été, qu'on ne connaissait pas, parce que j'ai réussi à retrouver en étudiant 2000 catalogues des œuvres qui étaient passées en vente et qu'on ne connaissait pas leur historique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je reçois des messages assez réguliers de mes anciens directeurs de mémoire qui me disent qu'ils ont pu retrouver des historiques en faisant des acquisitions de mes œuvres grâce au travail que j'avais fait. Donc c'est assez gratifiant dans ce sens-là. Mais c'était beaucoup de travail, beaucoup d'économies, et ça, c'était un peu fastidieux. Parce que ça se détachait assez à aucun moment dans mes deux mémoires, je n'ai fait d'analyse d'œuvres d'art. Moi, les œuvres d'art étaient des données comme des prix de vente ou comme des descriptions. Et il n'y avait pas du tout d'analyse d'œuvres esthétique, on va dire.
Et du fait que vous travaillez sur un sujet un peu niche, bon, après vous m'avez dit que vous vouliez vous lancer sur le marché du travail, vous n'avez pas eu à l'esprit de vouloir continuer dans un doctorat et d'être financé en même temps par un musée?
Alors non, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la recherche ça m'avait plu, mais je savais qu'il me fallait, j'avais un besoin d'avoir un peu plus d'action
Ok.
et d'être un peu sur le terrain, entre guillemets. Je trouvais ça intéressant, mais je me voyais pas continuer à faire ça pendant 3 ans, surtout que la vie de doctorant est quand même une vie assez solitaire. Je sais de quoi je parle puisque ma compagne est doctorante. Et c'est une vie où on passe son temps à travailler seul, ou le plus souvent seul, chez soi, etc. Et c'est pas du tout quelque chose, moi, qui me tentait. Du coup, ça, c'était le premier point. Et ensuite, mon sujet d'étude, pour avoir un doctorat, l'intérêt d'un doctorat, c'est après de travailler, d'avoir du travail. Et dans le sujet d'étude, qui est celui du marché de l'art, c'est un secteur qui est extrêmement, en tout cas l'étude du marché de l'art, puisque le marché de l'art, c'est un domaine qui est extrêmement bouché au niveau professionnel, dans le sens où il n'y a quasiment aucun poste dans les musées, dédié à ça en tout cas, parce que c'est souvent des missions annexes des conservateurs. Et l'intérêt de faire une thèse, passer 3-4 ans de ma vie sur un sujet qui ne m'intéressait, mais pas non plus au point d'y passer 4 ans de ma vie, pour finalement sans doute ne pas avoir de travail au bout, n'était pas quelque chose qui m'a attiré étonnamment.
Et donc, après vos études, quel a été votre parcours professionnel?
Enfin, mon parcours professionnel n'est pas très long puisque du coup j'ai fini mes études en 2023. Le concours étant fin août, et j'ai fini à ce moment-là, au moment où j'ai passé le concours. Du coup, je me suis mis à chercher du travail environ vers septembre à peu près. J'ai passé beaucoup d'entretiens et j'ai finalement trouvé au mois de début avril, on va dire. Et du coup, depuis le 1er mai 2024, je suis en poste. Du coup, à Rion. Donc, Rion, c'est à 10 km au nord de Clermont-Ferrand. C'est l'ancienne capitale historique de l'Auvergne, puisque Clermont-Ferrand était la capitale religieuse et Rion, jusqu'à la Révolution, était la capitale administrative. Donc, c'est une ville de 20 000 habitants, la sous-préfecture du Puy-de-Dôme. Et j'ai été recruté, du coup, comme chef de projet pays d'art et d'histoire, anciennement, ce qu'on appelait anciennement les animateurs du patrimoine. Donc, qui est un poste qui est un peu particulier puisque je n'ai pas de musée à gérer. J'ai un service culturel autour du patrimoine qui est lié à 31 communes, qui sont les 31 communes qui sont labellisées pays d'art et d'histoire. En France, il y a à peu près 200 pays d'art et d'histoire. Donc, ça peut être aussi bien des villes d'art et d'histoire, comme par exemple Montauban, qui est une ville d'art et d'histoire, ou comme Boulogne-Billancourt, qui est aussi une ville d'art et d'histoire. Et il y a des pays d'art et d'histoire qui regroupent une ville centre et des villes autour. C'est le cas du coup à Rion, où il y a Rion qui est la ville centre, qui était anciennement une ville d'art et d'histoire, et 30 communes autour, qui sont en fait les communes de la communauté d'agglomération, qui sont elles aussi labellisées. Et du coup, moi, ma mission, depuis que j'ai pris mon poste en mai, du coup, il y a bientôt 9 mois, 8 mois, c'est d'animer le patrimoine, ça c'est ma mission principale, c'est-à-dire d'organiser des visites guidées, d'organiser des conférences, d'organiser des colloques, d'organiser des ateliers, d'organiser des visites pour les scolaires, etc. Sur les 31 communes. Donc ça c'est ma première mission, on va dire ma mission un peu de globale, en sachant que moi je ne fais pas forcément de visites guidées puisque j'ai une équipe pour cela. Et après, mes autres missions, c'est améliorer la connaissance sur le patrimoine de ces 31 communes. C'est là où ça se rapproche assez fortement d'un job de conservateur de musée, sauf qu'à contrairement à un conservateur de musée, moi, je n'ai pas de collection propre, mais j'ai un territoire à couvrir constitué de monuments historiques, de collections dans ces monuments historiques, de biens publics également, dont je n'ai pas la gestion propre, mais dont j'ai la mission d'enrichir la connaissance. Ce qui fait que j'ai une grosse part de scientifique dans mon métier, qui n'est pas forcément toujours le cas en musée, en tout cas dans les musées d'agglomération moyenne, on va dire. Au Louvre, quand on est conservateur, on ne fait que de collection. Quand on est directeur d'un musée dans une ville moyenne, jusqu'à 100 000 habitants, on va dire, on fait beaucoup d'administratif et on fait assez peu de scientifique. Moi, j'ai l'avantage de faire pas mal d'administratif, certes, mais faire beaucoup aussi de scientifique parce que j'ai une attente dans mon métier de faire des conférences, de faire des publications, de faire des visites, etc. Donc, je partage mon temps entre d'administratif, donc gestion d'équipe, parce que j'ai quand même une équipe, on va dire, de titulaires de 5 personnes, et un peu plus si on compte les contractuels et les vacataires. Et en fonction des saisons aussi, j'ai plus de monde l'été que l'hiver. Et de la gestion de projets culturels, donc organisation de programmes, d'une programmation culturelle, et aussi organisation de différents projets, création d'outils pédagogiques, création d'expositions, création de choses diverses et variées, et une part de scientifique qui est de l'étude du patrimoine local.
Et comment vous avez réussi à trouver ce travail ? Vous avez passé un concours ?
Oui, alors en fait, le poste de chef de projet Pays d'Art et d'Histoire est un poste un petit peu particulier dans le milieu des métiers dans le secteur du patrimoine et de l'histoire de l'art, puisqu'il n'est pas sur concours national, dans le sens où, par exemple, conservateur, on passe un concours, on passe le même concours à Paris, etc. Et à la fin, il y en a un certain nombre qui deviennent conservateurs. Attaché de conservation, qui est le grade en dessous, c'est un peu la même chose, sauf que là, tout le monde ne passe pas à Paris. Chef de projet Pays d'Art et d'Histoire, c'est un concours de recrutement, dans le sens où pour chaque poste, il y a un concours différent. Donc, c'est-à-dire que là, pour Rion, au moment où ma prédécesseure est partie à la retraite, ils ont ouvert le poste et il y a un concours de recrutement qui permet d'avoir le poste en question, mais qui n'ouvre pas d'autres postes. Si je veux changer de Pays d'Art et d'Histoire, par exemple, ben je dois repasser un concours, ce qui est un petit peu particulier. Mais pour chaque poste, on a un concours de recrutement qui est une espèce d'examen d'embauche, en fait, hein, d'entretien d'embauche, mais version un peu différente parce qu'on a des dossiers à remplir, on a un jury où il y a au minimum 7 personnes, etc. Et surtout, notre recrutement est validé par la DRAC, ce qui n'est pas le cas pour les autres postes dans la fonction publique. On n'est pas recruté par... Il n'y a pas l'État qui n'est pas juge de notre recrutement. En l'occurrence, là, c'est mon recrutement est validé par la responsable des pays d'art et d'histoire au niveau de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, du coup, ça a été un petit peu compliqué, puisque c'est un concours de recrutement. Je n'étais pas tout seul, il a fallu... passé plusieurs épreuves, etc., plusieurs tours. Et finalement, j'ai été recruté du coup mi-avril, on va dire, et j'ai pris mon poste 1er mai.
Est-ce que vous savez ce qui a fait la différence par rapport aux autres candidats, car ça doit être quand même assez concurrentiel ?
Oui, de toute façon, le milieu de l'histoire de l'art et du patrimoine, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Puisqu'en fait, il y a très peu de postes et beaucoup de candidats, même si beaucoup de candidats, tout est relatif. On n'est pas plus, il n'y a pas 500 000 personnes qui sont formées en histoire de l'art chaque année. Mais c'est quand même très concurrentiel. Vous l'avez vu, j'ai fini mes études en septembre. Je n'ai pas trouvé en septembre. Hein. J'ai trouvé en avril, donc il m'a fallu 7-8 mois pour trouver. Ce qui reste, on va dire, entre guillemets, à peu près raisonnable, même si ce n'est pas idéal. En sachant aussi que j'avais eu le luxe de refuser deux offres où j'avais été accepté. Donc j'aurais pu trouver tout de suite. En fait, j'avais trouvé un poste dès le mois d'octobre, mais au niveau à la fois salaire et conditions de travail, ne correspondait pas à ce que je recherchais. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui pouvaient me soutenir pendant un certain temps, donc j'en ai profité. Qu'est-ce qui a fait la différence au niveau de mon recrutement à Rio? Déjà, je pense le fait d'être, entre guillemets, un local de l'étape, parce que je viens de pas très loin, j'ai fait une partie de mes études à Clermont, donc je connaissais assez bien la région. Et ça, surtout dans des territoires où il y a un fort chauvinisme. C'est pas le cas partout en France, mais l'Auvergne, ça fait partie des territoires où les Auvergnats aiment les Auvergnats. Donc, moi, je suis pas vraiment Auvergnat, mais je suis pas très loin. D'ailleurs, une partie de ma famille Auvergnate, quand même. Donc, j'ai quand même un sang Auvergnat qui coule en moi, ce qui fait un petit peu l'importance. Et après aussi, ce qui joue beaucoup, c'est la personne qui vous recrute. En l'occurrence, il faut avoir de la chance, hein. Il y a une grosse part de chance. Parce qu'il faut tomber sur quelqu'un qui est prêt à donner sa chance aux jeunes. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que on privilégie, c'est assez logique, hein, les gens qui ont un petit peu d'expérience quand même. Moi, j'en avais pas du tout, à part mes stages. Donc, il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui est prêt à donner sa chance à un débutant. Et en l'occurrence, moi, c'est ce qui est arrivé. La directrice d'affaires culturelles de l'agglomération dans laquelle je travaille avait envie de donner sa chance à un débutant. L'avantage aussi d'un concours de recrutement, contrairement à un entretien, c'est qu'il y a des mises en situation. Et dans une mise en situation, on fait ses preuves, en fait, tout simplement, parce que ça nous permet de montrer ce qu'on sait faire. Moi, en l'occurrence, dans ma mise en situation, j'ai dû faire une visite guidée. Et à première vue, ma visite guidée a bien plu, puisque j'ai été recruté. Après, le fait d'être jeune n'est pas forcément toujours un désavantage, puisque moi, je remplace quelqu'un qui a été en poste pendant 40 ans. Donc depuis qui est parti en retraite en 2023 et qui était là depuis 1985. Donc elle a beaucoup œuvré pour le pays d'arrêt d'histoire, mais il y a eu une seule personne qui a été du pays d'arrêt d'histoire pendant 40 ans. Donc le fait aussi d'être jeune, ce qui je pense a permis aussi mon recrutement, c'est que quand j'ai été recruté, j'avais aussi pour mission d'offrir un regard neuf et un regard plus moderne, entre guillemets. Même si je dénigre pas du tout ce qu'a fait ma prédécesseur, puisque c'était très bien, mais un regard aussi avec l'usage des nouvelles technologies, avec peut-être aussi ce qu'attend de plus un public un peu plus jeune, qui est ma tranche d'âge, en fait, tout simplement. Et je pense que, en l'occurrence, ma jeunesse a été un atout dans ce recrutement.
Vos responsabilités sur ce poste, elles sont donc quand même assez multiples. Vous avez appris la plupart de ces compétences sur le tas.
Oui, et je continue à les apprendre encore aujourd'hui. Déjà, je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre, et encore plus quand on débute. Comme je vous l'ai dit, moi, ça fait 8 mois que je suis en poste. Avant, tout ce que j'avais fait, c'était des stages ou des jobs d'été. Donc, j'avais jamais eu de management à faire. J'avais jamais eu à conduire de projet culturel de A à Z, c'est-à-dire de la conception à la budgétisation, au rétroplanning, jusqu'à la conception finale. Moi, quand j'étais en stage, on me donnait une mission à faire, je la faisais et j'exécutais les ordres et c'est tout, hein. Je n'avais pas besoin de monter un projet particulièrement. Donc tout ça, je l'apprends encore aujourd'hui. L'avantage, c'est que j'ai de la chance d'être quand même assez bien accompagné aussi bien par ma directrice que par mes équipes, puisque mes équipes sont là en poste depuis longtemps. Du coup, savent comment fonctionnent les choses. Et aussi, il faut se former, il faut suivre des formations. En l'occurrence, je m'inscris à des formations, j'en suis. Il y en a des formations en interne dans mon agglomération. Ce qui me permet de, par exemple, sur le management, j'ai suivi plusieurs formations de comment apprendre à gérer une équipe. En plus, moi, j'ai la spécificité d'avoir une équipe où, moi, j'ai 27 ans, toute mon équipe a 40 ans passés. En sachant que j'en ai un qui est déjà parti à la retraite depuis mon arrivée. Donc, c'est une équipe où je suis le plus jeune très largement. Donc, c'est aussi un sentiment de devoir s'affirmer qui n'est pas forcément aisé. Et là, ça s'apprend sur le tas. Après, ça se joue aussi au feeling entre les différentes personnes. Et après, pour la gestion de projet, pour tout ce qui est administration, tout ce qui est RH, c'est pas intuitif, hein. Et là, il faut pas hésiter à poser des questions, et même à passer pour une personne bête un petit peu. Mais en même temps, si on l'a jamais fait avant, on peut pas l'inventer non plus. Et il faut se former le plus possible, essayer de suivre des formations. Mais bon, c'est sur le tas. Je l'ai pas. C'est un peu le défaut de l'école du Louvre, c'est que on est des très bons historiens de l'art, mais on est des piètres au final du patrimoine. Puisque je suis très bien, très capable de mener, quand je dois concevoir des visites ou créer des publications, là, j'ai besoin de demander d'aide à personne. Quand il faut monter un projet de subvention, là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. En tout cas, ça a été un peu plus compliqué. Maintenant, ça commence à rentrer progressivement. Mais c'est là où il faut vraiment être prêt à apprendre, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant.
Il y a beaucoup d'étudiants qui se destinent à la médiation culturelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les spécificités de la communication lorsque cette dernière est destinée à promouvoir la culture?
Il faut être solide. C'est ça, la solide sur ses bases et avoir une bonne culture scientifique. Scientifique dans le sens, pas maths, physique, chimie, hein, dans le sens sciences humaines, dans le sens où ce qui est attendu d'un public quand on fait de la médiation culturelle, en tout cas à mon niveau, parce que c'est pas la même chose quand on bosse dans une collectivité locale que quand on bosse par exemple dans un endroit extrêmement touristique au Mont-Saint-Michel ou à la Tour Eiffel, etc. À la Tour Eiffel, quand on a un public ancien, essentiellement constitué de touristes, le niveau peut être assez sommaire parce que c'est ce qui est attendu. En l'occurrence, quand on est dans des villes comme Riom, par exemple, là où je suis, ou dans le territoire, on a des publics qui sont des publics, on va dire, d'aficionados de la culture. Donc, c'est des publics qui sont souvent des personnes très compétentes, et parfois même plus compétentes que nous sur les sujets qu'on présente. Donc, c'est là où il faut vraiment, et c'est important, la médiation culturelle, savoir s'exprimer à l'oral, savoir parler plusieurs langues, c'est super utile, ça, y a pas de problème, mais être solide scientifiquement, être un bon historien de l'art, être un bon historien, c'est tout aussi utile, voire même, et moi je trouve que c'est même plus utile qu'être parfaitement bilingue en anglais, par exemple. Parce que, bah, tout simplement, ça dépend où on est. Encore une fois, si on est au Mont-Saint-Michel ou à la Tour Eiffel, parler anglais, c'est super utile. À Rion, des visites en anglais, j'en ai pas fait une seule depuis que je suis arrivé, hein. Mais par contre, des visites très poussées, des conférences sur des tableaux obscurs d'une petite église où il faut aller fouiller en archives pour trouver la moindre information et faire de la paléographie, et finalement se retrouver à faire des études, envoyer des mails à tous les plus grands spécialistes, bah ça, j'ai eu à le faire plusieurs fois depuis que je suis arrivé. Donc c'est ce que je conseille, moi, si vous voulez faire de la médiation culturelle, il faut bosser et il faut ne pas du tout négliger en se disant que on apprendra sur le tas, l'histoire, l'histoire de l'art, ça viendra. C'est pas le cas, il faut vraiment bosser. Et d'ailleurs, je le ressens parce que j'ai été amené depuis que je suis en poste à faire plusieurs recrutements. Quand on recrute en musée ou en pays d'art et d'histoire, parce que c'est, il faut pas se mentir, en médiation culturelle, c'est les deux entités qui recrutent le plus. D'ailleurs, même en médiation culturelle, les pays d'art et d'histoire ont tendance à plus recruter que les musées. Ce qu'on regarde en premier dans un CV, c'est si la personne a des diplômes en histoire et en histoire de l'art. Parce que c'est ça qui différencie les CV des uns des autres. Si quelqu'un a, parce que pour parler en monument historique, etc., il faut avoir la carte de guide conférencier. Si vous avez la carte de guide conférencier, tous les gens qui candidatent à un poste de médiation l'ont. C'est logique. Par contre, tout le monde n'a pas une licence ou un master en histoire et une licence ou un master en histoire de l'art. Et c'est là où il y a une vraie différenciation et c'est là où c'est très important. Donc il ne faut pas négliger, si on se dessine vers de la médiation culturelle, il ne faut pas négliger cette partie formation en histoire de l'art, ça me paraît très important.
Vous êtes aussi rédacteur pour le magazine Coupe-Fil Art, pour lequel vous avez coécrit et co-réalisé plusieurs web-séries vidéo. Pouvez-vous nous expliquer comment cette occasion s'est présentée et de quel projet vous êtes le plus fier?
Alors bah, c'est pas très compliqué. Comment ça s'est présenté à moi ce projet? Tout simplement parce que ça a été fondé par un de mes meilleurs amis, par deux de mes meilleurs amis d'ailleurs, en 2018, au moment où on était étudiants à l'école du Louvre, tous. Donc c'est très simple, ils ont eu cette idée ensemble. Ils savaient que moi j'écrivais déjà à droite à gauche, dans d'autres magazines étudiants, etc. Ils m'ont dit, bah, est-ce que ça te tente de venir écrire pour nous? Donc bah, j'ai dit oui tout de suite. Donc je ne suis pas fondateur, mais j'ai été le premier rédacteur. Donc je suis rentré tout de suite dans la machine dès 2018. Et du coup, j'ai écrit beaucoup. Beaucoup aussi bien sur des œuvres d'art que sur des expositions, que sur des choses diverses et variées. Et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et ça nous a permis aussi de faire des projets divers et, comme vous l'avez dit, des projets de web-séries. Et ça, les web-séries, c'est quelque chose qui nous a tout de suite parlé parce que le format vidéo, je pense, c'est très intéressant. On va parler d'histoire de l'art puisque l'histoire de l'art étant visuelle. C'est quand même bien de pouvoir montrer les choses dont on parle. Et dans ce cadre-là, on a eu la chance tout de suite, grâce à des relations qu'on avait, d'avoir l'opportunité de travailler en partenariat avec le musée du Louvre. Ce qui fait qu'on a pu réaliser trois web-séries en collaboration avec le musée du Louvre et avec un autre vidéaste qui nous a aidés sur la partie plus vidéo. Nous, on était très, encore une fois, très bons historiens de l'art, mais à peu près doués dans rien d'autre. Donc lui était très bon vidéaste, mais pas du tout historien de l'art. On s'est associé, on s'est dit, bah, lui, il va filmer, nous, on va rédiger le contenu, faire les interviews et pitcher les projets. Et du coup, on a fait trois web-séries. Une première sur la Grèce antique, avec le conservateur du Louvre chargé de la Grèce antique, donc Ludovic Laugier. C'est là où... Et l'avantage, c'est que c'est tombé, en fait, elle est sortie au moment du premier confinement. Ce qui fait que tout le monde était confiné, tout le monde est resté chez soi, et mais beaucoup, beaucoup de personnes ont regardé la vidéo, puisqu'on a certains épisodes qui ont plus de 50 000 vues, qui pour un domaine en histoire de l'art est quand même pas mal, au point qu'il y avait même une émission sur France Culture dédiée entièrement à la web-série. Donc, une fois que cette première vue a super bien marché, ça n'a pas été très compliqué de vendre au Musée du Louvre, de vendre entre guillemets, parce que ça leur a rien coûté, hein. C'est un partenariat, de pitcher au Musée du Louvre deux autres web-séries. Une première sur les arts de l'islam et une deuxième sur la peinture française au XVIIe siècle, qui était un peu notre mon Graal, puisque c'est vraiment ce que j'aime le plus. En plus, je m'entendais très bien et je m'entends toujours très bien avec le conservateur en charge de la peinture française au XVIIe siècle au Musée du Louvre. Et du coup, on a pu réaliser cette dernière web-série au Musée du Louvre, qui, elle, a aussi très bien marché et dont on est très fier. S'il y a un projet dont je suis le plus fier, c'est vraiment celle-ci, puisque ça parle de ce que j'aime. Et dans l'endroit que j'aime, et c'est vraiment, je trouve en plus que le rendu est vraiment de très belle qualité. Après, on en a fait d'autres. Moi, je me suis un peu détaché de la création vidéo, même si ça va reprendre là très bientôt, puisque tout simplement, je ne suis plus à Paris. Ce qui fait que mon collègue avec qui on filme, eh ben, lui est à Paris, ce qui pose quelques problèmes tout simplement logistiques. Donc, si je veux aller tourner des choses à Paris, bah, il faut que je prenne des jours de congé, ce qui n'est pas forcément simple. Mais on devrait tourner bientôt une nouvelle web série en Auvergne, autour du patrimoine auvergnat. Donc ça devrait reprendre bientôt.
Ils durent environ combien de temps les épisodes?
Ça dépend, il y en a qui durent une demi-heure, il y en a qui durent un quart d'heure. Tout dépend de ce qu'on a gardé ou pas au montage. C'est entre 15 et 30 minutes. Et à chaque web série, il y a 4 épisodes. Plus une interview souvent du conservateur. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'orientent vers le métier conservateur, ça peut être super intéressant parce qu'on a interviewé trois conservateurs du musée du Louvre. Donc Ludovic Laugier, qui est toujours conservateur de la peinture, de la sculpture grecque au musée du Louvre, donc conservateur entre autres de la Vénus de Milo. Yannick Lins, qui était à l'époque directrice du département des arts de l'islam du musée du Louvre et qui est aujourd'hui directrice du musée national des arts asiatiques, le musée Guimet à Paris, et Nicolas Milovanovic, conservateur de la peinture 17e au Musée du Louvre, et les deux vous expliquent comment ils sont devenus conservateurs, les trois vous expliquent comment ils sont devenus conservateurs, qu'est-ce qu'ils conseillent, on leur a toujours posé la question, parce que nous, à l'époque, on était étudiants, et on a toujours posé la question, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune étudiant qui se destine vers le métier de conservateur? Donc si vous êtes intéressé par cette question-là, je pense que la meilleure réponse qui peut être donnée, c'est par ces trois personnes. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos. C'est assez simple hein, pour trouver les vidéos, vous tapez peinture française 17e ou sculpture grecque ou art de l'islam, il n'y a pas 50 000 vidéos sur le sujet, vous allez très vite tomber dessus.
Et donc, pour revenir à votre métier, qu'est-ce qui vous plaît le plus dedans?
Il y a plusieurs choses, mais tout d'abord, et ça c'est super important, moi j'avais volonté vraiment de travailler, on va dire, autour de l'histoire locale. J'ai fait un stage au musée du Louvre, ça m'a beaucoup plu. Mais ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est le petit patrimoine, c'est le patrimoine, on va dire, de nos campagnes, c'est le patrimoine des villages, c'est en fait un patrimoine avec lequel j'ai été élevé. Moi, je viens d'un petit village, c'est le patrimoine que j'ai connu avant de connaître le Musée du Louvre, j'ai connu la petite église du coin. Et surtout, c'est un patrimoine qui est souvent dédaigné, dans le sens où on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs, et on se dit que chez moi, il n'y a rien. Et s'il faut voir, si pour voir de l'art, il faut aller à Paris. Ce qui est totalement faux, puisque partout, à peu près partout en France, on a la chance d'avoir un très beau pays, il y a des choses à voir. Et ça, c'est ça qui me plaît dans mon travail, c'est que j'ai 31 communes. Sur les 31 communes, il y en a 20, une vingtaine qui ont moins de 2000 habitants, voire même moins de 1000 habitants. Donc, c'est des communes qui sont considérées comme des communes de peu d'intérêt, on va dire. Et en fait, dans chacune des communes, il y a quelque chose à découvrir. Il y a un patrimoine qui est riche, il y a une légende, il y a du patrimoine immatériel, il y a toujours une église, donc une église c'est souvent intéressant d'un point de vue architectural. Souvent dans l'église, il y a des choses à voir. Il y a aussi du petit patrimoine qui est tout aussi intéressant. Il y a des très beaux pigeonniers, il y a des très beaux hôtels particuliers, beaucoup de châteaux également. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans mon métier, c'est d'arriver à faire le lien entre les habitants et leur patrimoine, parce que c'est là aussi où il y a tout un enjeu, et ce qui est très fort au sein du label le Pays d'Art et d'Histoire, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'intérêt patrimonial de leur cadre de vie. Parce que c'est en faisant prendre conscience aux gens que bah, cette maison, elle est belle, qu'elle a un intérêt, que ce n'est pas une simple maison, qu'on évite qu'ils la démolissent ou qu'ils mettent un crépi jaune fluo sur cette même maison. Et c'est ça que j'aime dans mon travail. Et en plus de ça, c'est les échanges justement avec les habitants. Parce que souvent, il y a toujours souvent des gens passionnés dans ces villages de leur patrimoine et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de trouver des gens à même de valoriser leur travail et à même de partager avec qui ils peuvent partager leur connaissance. Et c'est ça qui est vraiment gratifiant et que j'ai découvert à Londres dans mon poste, c'est que on a vraiment le sentiment d'être utile, puisqu'on voit vraiment le bonheur qu'on apporte aux gens en leur faisant redécouvrir leur patrimoine. Quelque chose qu'on n'a pas forcément dans un grand musée parisien, parce que par exemple, moi j'avais travaillé sur l'exposition Léonard de Vinci, bah, j'ai beaucoup travaillé, c'était une très belle exposition, là il n'y a aucun doute, elle était super intéressante, mais finalement le retour du public, on l'a pas, ou très peu. On a le retour de la presse, on a l'article dans Télérama, etc. Mais finalement, on ne rencontre pas le public qui visite l'exposition, ou très peu. Et surtout, c'est quelque chose qui les intéresse, mais qui ne les touche pas directement, comme ça peut toucher quand on étudie la maison de quelqu'un, par exemple.
Et à contrario, qu'est-ce qui vous plaît le moins?
Qu'est-ce qui me plaît le moins? Pas grand-chose, même s'il y a des choses. Qu'est-ce qui me plaît le moins? Bah, je vais faire une réponse un peu basique, hein, mais c'est souvent l'administratif. Il peut être un peu usant, puisque pour remonter beaucoup de projets, on est dans un pays technocrate, où pour le moindre projet, il faut faire 50 échanges, 50 propositions, 50 consultations et autres. Ce qui fait que tout prend du temps, mais en même temps, c'est un temps qui mérite d'être pris aussi parfois. Mais oui, ce qui me plaît un petit peu moins, c'est le côté administratif, même si des fois, ça permet aussi de sortir. Ça permet de sortir la tête un peu du guidon quand on est plongé trop dans le scientifique. Ça permet de faire des choses, de se remettre dans le concret, de se rendre compte que ce qu'on fait a un coût aussi. On est avant tout, et ça c'est super important, quand on bosse dans le service public, on est un service public. Au même titre que la poste est un service public, au même titre que l'agence d'eau potable est un service public, un musée ou un pays d'art d'histoire, comme c'est le cas chez moi, est un service public. Donc notre rôle, ce n'est pas de se faire plaisir à nous, à titre personnel, mais c'est de toucher le maximum de personnes. Et c'est là qui est aussi intéressant. Et du coup, l'administratif rentre dans ce compte-là, puisque bah, pour toucher le maximum de personnes, il faut faire des stats, il faut faire des bilans, il faut faire des choses pour se rendre compte de ce qu'on fait, de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait mal.
Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait devenir chef de projet de Pays d'Art et d'Histoire?
Les projets, les conseils, bah, ils sont divers. Déjà, savoir que ça existe, c'est le premier point, puisque quand on se tourne vers les musées du patrimoine, bah, on se tourne obligatoirement vers les musées ou vers les DRAC, donc le conservateur des monuments historiques, etc. Mais en fait, on oublie les pays d'art et d'histoire, qui sont pourtant un secteur qui recrute pas mal, qui est en plein développement. Et qui permet, comme je l'ai dit, de faire autant de scientifiques que dans un musée, voire plus, et qui est tout aussi intéressant. Donc, dans ce cadre-là, déjà, premier conseil, renseignez-vous sur qu'est-ce qu'un pays d'art et d'histoire, qu'est-ce que c'est, etc. Moi, je sais que, par exemple, on prend des stagiaires régulièrement, mais par rapport, je compare avec ma collègue qui gère les musées de la ville de l'agglomération de Riom, et ben, elle reçoit 50 fois plus de CV que moi. Tout simplement parce que quand on pense à faire un stage, on pense à faire un stage en musée. Moi, j'ai fait mes stages en musée, hein, d'ailleurs, c'est le cas. Mais on ne pense pas à faire un stage en pays d'art et d'histoire. Et pour avoir l'avis de ma stagiaire actuelle, qui est partagée entre le musée et le pays d'art et d'histoire, bah, elle est tout aussi contente de ce qu'elle fait, voire plus au pays d'art et d'histoire, que ce qu'elle fait au musée. Puisque l'avantage d'un pays d'art et d'histoire, c'est qu'on n'est pas confiné dans un bureau. On sort tous les jours, on va se balader sur le terrain. Et du coup, c'est aussi super important. Donc ça, c'est le premier conseil. Et après, c'est ne pas avoir peur du concours de recrutement qui est très lourd, très dense, mais qui aussi décourage, qui fait que quand vous le préparez vraiment de façon intensive, et ben vous êtes confronté à beaucoup moins de candidats qu'une seule offre qui sort sur un concours, sur un entretien d'embauche, où là, il suffit d'envoyer un CV, une lettre de motivation, et vous êtes directement candidat. Vous pouvez avoir jusqu'à 50 candidatures sur un poste comme ceux des musées et du patrimoine. Alors qu'un concours de recrutement, il y a un gros dossier à rendre, c'est très long. C'est un peu qui tout double, hein, parce que soit vous êtes recruté, vous avez fait ça et vous êtes content, soit vous n'êtes pas recruté et vous avez fait un dossier pour rien. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment un dossier pour rien parce que ça a quand même un petit peu formé. Mais du coup, ça, c'est le deuxième conseil, ne pas avoir peur. Et le troisième, c'est aimer son patrimoine local. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'aimez pas le patrimoine local, si pour vous l'art n'est que ce qu'on trouve dans les grands musées, le poste de chef de projet Pays d'Art et d'Histoire n'a aucun intérêt. Puisqu'il faut être ouvert à tout, il faut être surtout, et ça c'est super important, multitâche entre guillemets, s'intéresser aussi bien à l'histoire de la préhistoire qu'à l'histoire contemporaine, aussi bien aux arts et métiers qu'à l'art contemporain. Parce qu'en fait, sur un territoire, sur un pays d'art et d'histoire, on a de tout. Moi, j'ai aussi bien des chantiers archéologiques où ils découvrent des villas romaines que des œuvres ultra contemporaines de street art. Et dans une même année, je peux très bien. Là, cette année, je vais faire une. Là, je suis en train d'écrire un ouvrage sur des fresques du 15e siècle. Et en fin d'année, je vais faire une conférence sur un. Je vais faire une conférence sur le street art. Donc, des choses qui n'ont pas. Certes, c'est la même technique, mais il y a 7 siècles d'écart. Et il faut être, 6 siècles d'écart d'ailleurs plutôt, et il faut être vraiment prêt à toucher à tout et à des domaines qui, prime abord, ne peuvent paraître pas très intéressants. Les moulins, par exemple, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, mais on peut trouver de l'intéressant dans tout, et c'est ça aussi où il faut être prêt si on veut faire ce métier. Et c'est ça qui est aussi gratifiant et intéressant, c'est que moi, du jour au lendemain, je ne fais jamais la même chose, et on n'a pas le temps de se lasser.
Avez-vous un meilleur souvenir à nous faire partager?
Un meilleur souvenir dans mon métier, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Il y en a beaucoup, hein. Après, il y a des choses, par exemple, à Rion, on a la chance de posséder une sainte chapelle. Une sainte chapelle, c'est une chapelle qui est sainte, comme toutes les chapelles, ça c'est logique, mais une sainte chapelle, c'est surtout une chapelle qui a été fondée par un descendant de Saint-Louis, le fondateur de la sainte chapelle à Paris. Et on a la chance à Rion d'avoir une sainte chapelle qui a été fondée par Jean de Berry, le fameux duc de Berry. Et un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand même quand j'ai eu l'occasion de monter dans la charpente de la Sainte-Chapelle, de monter sur son toit, de faire le tour, etc., dans le cadre de mes fonctions. Et ça, c'est quand même un très beau souvenir de ma prise de poste. Après, au-delà de ma formation, si je devais garder un seul souvenir, c'est au moment où j'étais en stage au musée du Louvre, pour travailler sur l'exposition Léonard de Vinci. Premier jour de stage, le conservateur m'amène avec lui, on va dans la grande galerie au musée du Louvre. Il prend le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci au mur, il l'amène dans la salle d'à côté, il enlève le cadre et il le prend à main nue, le Saint-Jean-Baptiste sans cadre, et il me le montre comme ça, totalement décadré. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on est très peu au monde à avoir pu voir un œuvre de Léonard de Vinci sans aucune protection, voir le revers de les panneaux, le panneau de bois au revers, etc. Donc ça, c'est peut-être le plus beau souvenir de mes études.
Eh bien, monsieur Lalabastre, je vous remercie beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt!